France Musique. France Musique.
Vous allez l'adorer.
Et si la Chine était le nouveau centre de gravité de la musique classique dans le monde? 250 salles de concerts symphoniques et d'opéra dans le pays, des virtuoses très présents dans les concours internationaux et ensuite sur les scènes, et un public nombreux, très nombreux. Le Centre National de la Musique et la Philharmonie de Paris proposent depuis hier et jusqu'à ce soir un colloque autour du marché de la musique classique en Chine. Bonjour Emmanuel André.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes le directeur concert et spectacle de la Philharmonie de Paris. D'abord, il s'adresse à qui ce colloque?
Alors il s'adresse un peu à tout le monde, mais en premier lieu aux professionnels, aux musiciens et à tous ceux qui rêvent d'organiser des concerts avec des partenaires chinois, ce qui n'est pas une mince affaire.
Merci. Marché de la musique classique en Chine, ça veut dire que les discussions sont d'abord d'ordre économique?
Alors il y a d'abord la barrière de la langue et puis la barrière de la culture, c'est-à-dire que ce sont deux univers qui ne se connaissent pas. Quand on vous demande comment se passe la réalité de la vie musicale en Chine, très peu d'organisateurs français se représentent les choses. Et puis on a du mal aussi à s'imaginer la taille du pays, sa répartition, les lieux de concert. Vous avez parlé de 250 salles, il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Mais il y a un boom en fait qui a été opéré à peu près dans les années 1995 jusqu'à nos jours. On a 300 salles qui, principalement, programment de la musique classique aujourd'hui et qui se rapprochent des standards que nous connaissons dans les pays occidentaux.
Quel programme de cette journée de jeudi du colloque, Emmanuel André?
Alors ce matin, nous allons d'abord aborder la question des politiques culturelles, c'est-à-dire comment est-ce que l'État, les régions et les villes conçoivent la musique dans leurs équipements publics et le lien avec le privé. Et puis ensuite, nous attaquons des questions beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire comment travailler avec des tourneurs et des agents. Est-ce qu'il y existe, comme chez nous, des tourneurs et des agents puissants et indispensables? Et puis, à la fin de cet après-midi, nous abordons des questions esthétiques de goût du public. C'est-à-dire comment est-ce que les goûts des musiciens occidentaux peuvent se croiser avec les musiciens chinois et le public chinois? Qu'est-ce qu'aime le public chinois? Qu'est-ce qu'il veut découvrir? En particulier, quelque chose qui nous surprend beaucoup, c'est l'essor et peut-être même l'explosion prochaine de la musique baroque qui va se produire en Chine. C'est le tout début de ce mouvement-là, mais ça s'est produit en Russie et ça va se produire très bientôt en Chine.
À découvrir toute la journée. En 3 minutes, on va essayer de s'arrêter sur quelques-uns de ces points. D'abord, les concerts, ils ont repris aujourd'hui en Chine?
Alors les concerts ont repris avec des jauges réduites il y a plusieurs mois et puis désormais dans les grandes villes maintenant nous sommes à jauge pleine. Les Chinois sont bien sûr très fiers de cette prouesse, mais c'est aussi une manière de montrer que la culture n'est pas oubliée dans leur société. C'est-à-dire que quand on met la société en route, eh bien les salles de concert sont là aussi, comme les cinémas, les bibliothèques et les autres lieux sportifs.
Vous évoquiez cet engouement, cet essor ces 10 dernières années du répertoire baroque. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle est la programmation de ces salles de concert symphoniques?
Alors, vous avez en Chine, bien sûr, le primat du grand répertoire, c'est-à-dire le répertoire germanique, romantique, mais également des originalités qui sont assez saisissantes. Une grande présence des orchestres américains, des orchestres anglais qui apportent des répertoires beaucoup plus originaux. Et puis les Français sont un petit peu à la traîne pour l'instant. Ils ont du mal à faire valoir leur répertoire national, j'allais dire avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire Berlioz, Debussy, Ravel. Et pourtant, le public chinois adore cette musique-là. Il y voit ce que nous avons quelquefois du mal à reconnaître en notre propre culture, c'est-à-dire cet art poétique, cette finesse et aussi cette abstraction. Finalement, par le regard chinois, on se découvre aussi un peu côté français.
Mais les orchestres et les solistes européens et français sont attendus dans ces salles où il y a un certain protectionnisme artiste chinois d'abord, en quelque sorte?
Alors, c'est très difficile de se rendre compte de l'engouement que la culture française suscite en Chine. La France est un pays adoré pour sa culture, ce qu'ils appellent son romantisme. Mais c'était en fait le portrait d'une culture vivante, c'est-à-dire à la fois classique, mais aussi contemporaine. En art contemporain, en danse, mais aussi en musique, la culture française joue d'une très grande réputation.
Selon vous, Emmanuel André, est-ce que la pandémie pourrait mettre un coup d'arrêt ou un coup de frein à ces tournées d'artistes occidentaux?
Alors c'est clair que durant les 12 derniers mois, durant les 16 derniers mois, tout s'est arrêté et nous pensons que les échanges vont reprendre au mieux en novembre 2021 et plus raisonnablement en février ou mars 2022 après les fêtes du Nouvel An.
Vous dirigez le département spectacle et concerts de la Philharmonie de Paris. Est-ce que dans le sens opposé, si on voit de plus en plus sur nos scènes de solistes chinois, les orchestres, on ne les voit pas en Europe, pourquoi est-ce que vous comptez par exemple inviter prochainement la Philharmonie de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Chine ou celui de Shanghai ?
C'est très important en fait de montrer que l'orchestre est le reflet d'une société. L'orchestre est son empreinte, son miroir. Et les orchestres chinois ne sonnent pas comme les orchestres occidentaux. Le jeu à plusieurs est totalement différent. Et c'est ce que nous souhaiterions présenter au public parisien prochainement. Mais il faut attendre encore quelques années pour que la situation internationale puisse reprendre. Et ce qui nous tient à cœur également, c'est que nous essayons aussi de nous abstraire de cette logique de tournée qui a connu une forme d'effervescence, mais aussi peut-être d'outrance, notamment écologique. Et il est temps désormais de penser plutôt des résidences, c'est-à-dire des moments où on se pose, où on peut travailler également sur la tradition, travailler avec des musiciens, des conservatoires, mieux se connaître, de manière à aller vraiment dans un échange culturel plutôt que dans une logique de tournée.
Emmanuel André, vous allez régulièrement en Chine, le public il est là pour remplir ces milliers de salles, ces 300 salles dédiées aux symphoniques.
Alors c'est effectivement un des grands enjeux. La Chine est composée d'une société où l'enfant est roi, l'enfant a été longtemps unique et on veut le meilleur pour lui, c'est l'héritage de Confucius. Donc ça crée dans les conservatoires un grand nombre de très jeunes musiciens qui sont un public potentiel. Mais la classe moyenne est très déficitaire, elle n'a pas beaucoup de cette habitude d'aller au concert. Elle n'a pas beaucoup l'habitude non plus de se cultiver elle-même. Donc, il y a cette fracture à résoudre et les salles de concert sont là pour le faire. Donc, c'est un des grands enjeux du gouvernement. Et ce qui est très étonnant en allant en Chine, c'est que vous voyez des salles où les familles, le soir, pendant l'après-midi, sont là et remplissent l'essentiel des salles. Ce n'est pas du tout un public âgé.
Vous nous donnez envie de suivre toute la journée ce colloque sur le site de la Philharmonie de Paris et sur celui du Centre National de la Musique. C'est donc jusqu'à ce soir toutes ces questions de politique culturelle, les tourneurs, les producteurs, les organisateurs de concerts en Chine et puis le goût du public et du répertoire. Merci Emmanuel André, directeur spectacle et concerts à la Philharmonie de Paris. À bientôt.
À bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.